E-Radio, l'invité de la rédaction, Lola Sautillier.
Bonjour Jean-Philippe Cavrois.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui sur E-Radio. Pour commencer, cette campagne pour faire de la santé mentale une grande cause nationale est portée par un collectif de près de 3000 structures. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de ce collectif et de cette campagne? Comment tout ça est né?
Cette fédération, en fait, c'est une fédération d'acteurs qui sont dans le champ de la santé mentale. On a des adhérents hein, qui sont aussi bien dans le champ sanitaire, médical, que dans le médico-social et le social, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'accompagnement des personnes. Et puis, on a aussi dans la fédération des associations de personnes concernées ou des proches, parce que bien sûr, quand quelqu'un a des soucis de santé mentale, a fortiori quand ça va jusqu'à des maladies lourdes, comme la schizophrénie, la bipolarité, la dépression, des troubles alimentaires ou autres, eh bien, ça a des répercussions sur tous les proches. Voilà, donc on couvre, nous, des acteurs qui sont sur tous ces champs-là. Et l'idée, c'est que la fédération, ben, elle vient là pour essayer de défendre les intérêts communs, de se mettre au service de la cause des personnes hein, elles-mêmes, et on va se battre pour que les personnes aient accès à des soins, mais aussi des accompagnements dans leur vie de tous les jours, dans leur insertion ou réinsertion, de qualité sur tout le territoire. On a initié l'été dernier, on a été frappé aux portes des principales associations du secteur, et du coup, on a ensemble créé un collectif avec le but de dire, bon, eh bien écoutez, on n'a jamais autant parlé de santé mentale. On voit que c'est un sujet qui vraiment concerne beaucoup de gens. C'est l'OMS hein, qui le dit, je n'invente rien, vous l'avez peut-être entendu déjà, mais que une personne sur quatre dans sa vie va rencontrer des difficultés psychiques, une maladie psychique, un épisode compliqué. Alors ça va de l'épisode dépressif de quelques mois jusqu'à toutes les maladies beaucoup plus lourdes, beaucoup plus chroniques, beaucoup plus longues et difficiles à traiter. Voilà. Et ensuite, on a vu aussi que dans les évolutions, on a des chiffres un peu préoccupants, notamment chez les jeunes. Donc, on voit, a fortiori depuis le Covid, qui a été un déclencheur et un accélérateur, mais on voit qu'il y a des chiffres préoccupants sur la santé mentale des jeunes, sur comment les jeunes perçoivent leur bien-être mental et aussi sur les taux de suicide. Et on sait aussi que ces sujets de santé mentale concernent tout le monde, pas que les jeunes, même si les jeunes, c'est quand même l'avenir, donc c'est très important. Mais aussi, on le voit chez les adultes, chez les salariés, évidemment, et puis chez les personnes âgées. Il y a un vrai sujet de santé mentale pour les personnes seniors et âgées, parce que c'est aussi des âges où, face à des deuils, face à des changements de vie, tout ça, c'est des sujets, des ruptures de vie, entre guillemets, parfois heureuses, mais qui posent aussi souvent des questions de comment je m'adapte. Et voilà, et on sait qu'avec la vieillesse aussi, le fait de perdre l'autonomie, le fait d'avoir une vie qui est aussi, il y a parfois des renoncements, tout ça enclenche des difficultés souvent autour de la dépression, autour de la sénilité, etc. Enfin, c'est vraiment un sujet de société. L'autre point, c'est encore un sujet extrêmement tabou. Donc, pour toutes ces raisons, on s'est dit, voilà, il est temps, il est largement temps de parler, de changer les regards, d'oser affronter ça, de faire un sujet qui soit pas un sujet de honte, mais plutôt un sujet de société, qu'on prend tous à bras le corps, et comment est-ce qu'on peut mieux sensibiliser, mieux repérer, agir beaucoup plus tôt. Et souvent, on attend trop longtemps. On attend qu'il y ait une crise, on attend qu'il y ait une crise aiguë qui force un passage à l'hôpital avant d'agir. Et on perd de la santé, on perd du temps et on met à risque tout le monde. De mieux sensibiliser, de mieux prévenir, le fait de mieux prendre en charge quand les problèmes plus importants arrivent, et le fait aussi de mieux accompagner le retour à une vie complète, épanouissante. Voilà. Ce qui nous a paru important, c'est de dire, essayons de faire de la santé mentale une ou la grande cause nationale. En 2025, en l'occurrence, parce que 2024, c'est l'activité sportive, évidemment. Et ça, on sait que ça ne va pas tout résoudre, mais que c'est un formidable tremplin pour la prise de conscience, pour la sensibilisation et le changement de regard.
Et qu'est-ce que ça signifierait justement concrètement de faire de la santé mentale une grande cause nationale? Est-ce que c'est une sorte de label? Est-ce que c'est vraiment contraignant pour le gouvernement?
En fait, le label grande cause, c'est pas très contraignant. Pour le gouvernement, ça représente quoi? Ça représente en fait d'offrir de l'espace sur les médias du service public. Donc ça veut dire à la télévision, à la radio, d'avoir effectivement, d'offrir de l'espace de communication gratuite. Ça implique pas tellement plus de choses. En revanche, il y a des effets quand même, c'est que le fait de choisir une grande cause, alors qui décide, hein? Officiellement, c'est Matignon, donc le Premier ministre. Mais en fait, c'est bien souvent le président ou c'est le binôme. Voilà, c'est l'Élysée qui décide avec Matignon. Ça engage à ça. Mais c'est vrai que du coup, ça permet au sujet de la grande cause, donc en l'occurrence, si c'est la santé mentale, de venir un peu sur le haut de la pile des discussions. Et donc, ça donne un tremplin ou un élan positif pour parler des choses. Pour du coup, nous, se prévaloir de certaines choses, de faire des recommandations, de faire du plaidoyer pour changer certains dispositifs, changer parfois des lois, faire accélérer des plans gouvernementaux. Voilà, donc il y a quand même un effet levier qui est très intéressant. Maintenant, le gouvernement peut juste dire, ben voilà, grande cause, espace de communication, et on s'arrête là. Ça ne les oblige à rien. Nous, ça nous permet d'utiliser ce bruit, cet espace pour aussi voilà, faire monter les choses, faire des demandes, faire des propositions. Bon, et puis pour rien vous cacher, il y a aussi beaucoup, et c'est encourageant, beaucoup d'élus qui sont très conscients de ces sujets-là. Donc nous et les autres personnes du collectif, on voit régulièrement des députés, des sénateurs, des maires, et on voit que ces élus vivent dans leur circonscription, dans leur ville. Ils vivent des situations, il y a des personnes qui, heureusement, frappent à leur porte régulièrement, à leur permanence, en disant, ben, vous savez quoi, ça fait juste 5 mois que je cherche un pédopsychiatre pour mon enfant qui va pas bien. Aujourd'hui, il y a un pédopsychiatre sur deux qui n'est plus en activité. On a globalement un tiers de psychiatres qui manquent et 50% des pédopsychiatres qui manquent, pour parler que de la partie maladie et prise en soin, prise en cause des soins. Voilà. Donc ça veut dire que si les élus aujourd'hui reconnaissent que c'est un sujet très important, donc ils sont responsables parce qu'ils sont élus, hein, et ils se rendent compte que parfois il y a des déserts médicaux, ou parfois il y a un manque de prévention, il y a un manque de moyens. Voilà. Donc eux, ils sont confrontés à ça régulièrement. Il y a, normalement, on devrait avoir au mois de mai un CNR, Conseil national de refondation, dédié à la santé mentale. Et en fait, ce CNR santé mentale, il a été identifié, décidé, parce que lors des précédents CNR, le sujet de la santé mentale est arrivé très, très souvent sur la table. Voyez. Donc, on se dit aussi que les pouvoirs publics, entre autres, hein, parce que je veux dire, tous les acteurs de la société le disent, prennent conscience, et certains même se battent aujourd'hui pour dans le même sens que nous.
Est-ce que vous sentez justement qu'il y a eu une sorte de tournant dans cette prise de conscience avec notamment la crise sanitaire de 2020? Parce que c'est vrai que c'est pendant cette période qu'on a beaucoup entendu parler de santé mentale, notamment par rapport à l'isolement ou au sentiment de solitude.
Oui. Il y a vraiment un électrochoc à ce moment-là qui a été très, très net au niveau des personnes les plus jeunes, étudiants ou scolaires. Enfin, vraiment, là, il y a eu une prise de conscience, un électrochoc. Et il y a eu aussi ça au niveau de l'ensemble de la société, parce qu'on s'est tous retrouvés face à parfois un isolement ou... voilà, c'était un changement. Et puis même dans les entreprises. Les entreprises aussi. Moi, j'insiste beaucoup sur les entreprises parce que, enfin, tous les milieux sont importants, mais tous les citoyens, enfin, beaucoup de citoyens, pas tous, mais beaucoup de citoyens sont aussi des salariés ou des entrepreneurs ou des libéraux, enfin, bref, des personnes qui travaillent. Donc, le milieu du travail est aussi un milieu qui peut être parfois un accélérateur de problèmes, mais qui est aussi une solution. Parce que beaucoup de personnes isolées, sans travail, etc., ont des soucis, mais le fait d'être en entreprise, d'avoir ce cadre social est aussi très important pour l'équilibre. Pour dire qu'effectivement, dans tous les milieux, la crise sanitaire a été un révélateur, un déclencheur ou un accélérateur.
Est-ce que justement depuis 2020, depuis le Covid, des actions concrètes ont été mises en place dans ce cadre-là, dans la lutte contre tous les problèmes liés à la santé mentale?
Il y a une formation qui est assez intéressante, enfin très intéressante et qui joue un rôle de sensibilité excellente, c'est les premiers secours en santé mentale. Ça a été lancé juste avant la crise Covid et en fait, ça a pu être mis en place après les confinements. Et là, il y a eu le lancement de ces 2 jours de formation qu'on appelle premiers secours en santé mentale, qui sont à la santé mentale ce que sont les premiers secours physiques. Hein, à la santé physique. Et du coup, aujourd'hui, enfin, le gouvernement déjà a apprécié cette démarche et ils ont vraiment mis un objectif. Enfin, Macron avait mis un objectif de former le plus possible de secouristes en santé mentale. Et aujourd'hui, enfin, d'ici la fin de l'année, on aura plus de 100 000 secouristes en santé mentale formés en France. Voilà. Et donc, c'est l'association qui s'appelle Premier Secours en santé mentale France, qui a lancé, et nous, on est un des initiateurs avec d'autres comme l'UNAFAM, qui est l'association des familles, à avoir lancé PSSM France, maintenant qui vit sa vie. Hein, on fait partie du conseil d'administration, mais ils vivent leur vie. Voilà, donc ce genre d'outils sont vraiment des outils de sensibilisation, et surtout pour dire aux personnes, n'ayez pas peur de parler de santé mentale. Vous êtes peut-être démunis, mais en tout cas, il y a des choses simples à faire quand on est face à des gens qui ont des difficultés, des personnes qui vont moins bien, qui sont pas comme d'habitude, voire peut-être qui sont dans des périodes de crise qui commencent. Il y a des choses qu'on peut faire. On n'est pas censé être des experts, mais on peut prendre conscience, poser des bonnes questions, aider la personne à aller vers et orienter. Voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent s'apprendre. Et si on vous le dit pas, vous n'allez pas les inventer tout seul. Hein, on est tous pareils.
Parce que j'imagine que l'idée est aussi de dire que santé mentale et santé physique sont indissociables et que la santé mentale doit être prise tout autant au sérieux que la santé physique.
Vous avez tout à fait raison. Encore une fois, l'OMS, qui dit pas mal de choses, parce qu'en plus, ils ont une vision dans pas mal de pays, dit il n'y a pas de santé sans santé mentale. Pour être en bonne santé, il faut aussi s'occuper de sa santé mentale. Voilà. Sinon, on peut pas dire qu'on est en bonne santé si on est en difficulté psychique ou que. Et de toute façon, il y a des répercussions somatiques, psychosomatiques, etc. Donc, et d'ailleurs, dans la campagne. Dans la démarche de campagne Grande Cause nationale 2025, le message clé qu'on veut faire passer tous ensemble, parce qu'on ne fait pas passer 36 000 messages et il faut être simple, c'est exactement ce que vous dites, c'est la santé mentale, il n'y a pas de santé sans santé mentale, et la santé mentale, ça concerne tout le monde, on se dit tous c'est les autres ou c'est les faibles, ben non, en fait, beaucoup de monde, et c'est toujours intéressant quand quelqu'un qui se pense, qui n'y pensait pas ou qui se pensait... Tout d'un coup, est confronté pour lui-même ou pour un proche à ça, et du coup, son regard change comme par hasard, et voilà. Voilà, donc dire, il n'y a pas de santé sans santé mentale, ça peut concerner tout le monde, il faut en prendre soin, et c'est l'affaire de tous. Voilà, c'est l'affaire de tous.
On a donc bien compris l'importance de la prévention, de la sensibilisation, mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au niveau de la prise en charge? Est-ce que les professionnels de santé sont assez formés, assez nombreux? Vous disiez un peu plus tôt dans cette interview que l'on manquait de psychiatres et de pédopsychiatres, mais est-ce qu'il est possible, par exemple, aujourd'hui, de se rendre chez son médecin traitant pour parler de santé mentale? Est-ce que tous les professionnels sont assez formés?
Ben, c'est une très bonne remarque, encore une fois. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut faire plus de prévention. La prévention, c'est monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde. Mais c'est aussi, et vous avez raison, les personnes vers qui on se tourne en premier quand on va pas bien. Donc, les généralistes, évidemment. Mais aussi les infirmiers, les soignants, l'infirmière qui est dans une école. Les médecins du travail, voilà. Donc, tous les services de soins ou d'accompagnement devraient être formés ou sensibilisés et devraient avoir ces premiers réflexes en tant que professionnels. Hein, voilà. Surtout dans des univers où on sait que les choses se jouent, hein, chez les jeunes. La plupart des maladies ou des difficultés arrivent Alors, ça peut arriver plus jeune, mais c'est entre 15 et 35. Mais 15-25, c'est vraiment une tranche trop importante. Voilà, donc, quels que soient les lieux où vivent ces personnes-là, il faut redoubler ou tripler d'attention. Donc voilà, effectivement, c'est former tous ces acteurs de première ligne. Deuxième chose, une fois qu'on a fait ce travail pour intervenir le plus précocement possible et même être attentif, voilà, c'est de muscler les soignants qui traitent les choses, hein, qui les prises en charge à l'hôpital ou en ambulatoire, les équipes qui vont vers, parce que l'hôpital ne sera pas, ne peut pas être toute la solution, parce qu'on a, c'est trop cher et on n'a pas assez de toute façon de médecins à l'hôpital ou de lits, et il faut pas créer X, enfin beaucoup trop de lits. Il faut en revanche avoir des soignants qui vont sur place, qui bougent, qui peuvent le plus possible aider et soigner dans les lieux de vie où sont les personnes, en s'appuyant sur d'autres professionnels, en s'appuyant sur les proches, en s'appuyant sur les personnes elles-mêmes. Voilà. Donc effectivement, la deuxième chose, c'est effectivement d'avoir plus de pédopsychiatres, plus de psychiatres, attirer plus les étudiants en médecine sur cette discipline, sur cette spécialité. Voilà. Et la troisième chose à faire, c'est d'étayer autour. C'est-à-dire que le soin est très important. Quand on n'est pas bien, il faut se soigner, mais ça suffit pas. Si vous vous soignez, mais vous vous occupez pas du reste, ben, par exemple, vous allez à l'hôpital psychiatrique, vous sortez de l'hôpital psychiatrique, ok, ça va mieux, vous avez moins de délire, ou vous sortez un petit peu de dépression ou d'une crise, mais vous retournez chez vous, et comme vous n'êtes pas bien, vous avez été en arrêt maladie, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tout seul, vous n'êtes peut-être pas encore assez bien pour reprendre, vous avez peut-être plus d'amis parce qu'ils vous ont un peu, ils ont pris des distances, votre famille ne sait plus quoi faire, vous avez plus d'activité sociale, bref, attention au cycle, au cercle pas vertueux, enfin, vous voyez le cercle qui vous tire vers le bas. Donc, en fait, ce qui fera vraiment la chose à faire, c'est de dire comment est-ce qu'on s'occupe de l'ensemble des dimensions de la vie de la personne et comment est-ce qu'on rend la personne, on s'occupe, enfin, on se met autour de la personne ou avec la personne pour l'aider à se rétablir, c'est-à-dire avoir une vie épanouissante en apprenant à gérer peut-être certaines de ses fragilités. Mais voilà. Et ça, c'est la meilleure des réponses à faire. Alors, c'est un peu plus compliqué à saisir. C'est comment est-ce qu'on fait que la personne reprenne sa vie en main et puisse avoir une vie épanouissante tout en sachant qu'elle a une fragilité psychique. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire de la santé mentale une grande cause? C'est en discutant comment on le fait, en essayant de prendre conscience, en lançant cette campagne qu'on a fait. Et en fait, ça passe notamment par la pétition, d'aller signer cette demande de grande cause. C'est très important. Alors aujourd'hui, on a lancé, il y a très peu de temps, parce que ça fait peut-être 10 jours ou 15 jours, 15 jours, et on est à 13 000, presque 13 400 signatures, ce qui est pas mal, mais c'est pas assez. C'est pas assez pour être pris vraiment au sérieux. Alors, pas par certains qui le prennent déjà, en tout cas dans les pouvoirs publics, et puis je pense à Matignon et l'Élysée, il faudrait qu'on soit minimum à 50 000 et idéalement à 100 000 signataires. Voilà. Donc nous, on va refaire dans nos réseaux, on va reprendre des initiatives pour alerter, faire campagne, mais on a besoin vraiment des médias. Alors les gens font ce qu'ils veulent, bien sûr, mais pour alerter et pour dire aux personnes, bah, allez-y, c'est le moment, manifestez-vous, prenez conscience de cet enjeu et aidez-nous avec cette pétition.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Cavrois. Vous êtes, je le rappelle, délégué général de la Fédération Santé Mentale France. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de radio.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.